Radio Prague, les informations.
Les émissions en tchèque de la BBC prendront fin dans quelques mois. Selon une décision judiciaire, la cathédrale Saint-Guy est une propriété de l'Église. Des néo-nazis tchèques soutiendront un négationniste allemand de l'Holocauste. La direction de la BBC a décidé d'abolir ses émissions en tchèque, tout comme celles en 9 autres langues, avant la fin de cette année. Ces décisions s'inscrivent dans la perspective d'une restructuration considérable des émissions internationales de la BBC et du projet de mise sur pied d'une nouvelle chaîne de télévision qui sera destinée aux pays arabes. Il s'agit des plus importants changements que la BBC ait subis au cours des 70 années écoulées. La cathédrale Saint-Guy et les biens mobiliers attenants ne sont pas une propriété de l'État, mais appartiennent à l'Église. Tel est le verdict du tribunal de Prague 1 qui est tombé ce mardi. Le conflit entre l'État et l'Église au sujet de la cathédrale dure depuis près de 13 ans. La municipalité de Prague n'a pas le pouvoir d'interdire la manifestation des néo-nazis qui doit se dérouler ce vendredi, jour de la fête nationale, devant l'ambassade de l'Allemagne. Ses participants veulent protester contre l'emprisonnement du négationniste allemand de l'Holocauste, Ernest Zündel. La Confédération des communautés juives à Prague demande l'abolition de la manifestation. D'autres manifestations de l'extrême droite sont prévues à Prague pour le 28 octobre. Le ministre de la Culture, Vyacheslav Jandák, veut renforcer l'inspection des sites et monuments. Il l'a dit lors des conversations qu'il a eues avec le président Václav Klaus. C'est dans une semaine que 3 dizaines de soldats tchèques se rendront au Pakistan pour aider les régions sinistrées par un récent séisme. L'équipe tchèque comptera notamment des médecins militaires qui avaient déjà travaillé dans un hôpital de campagne en Afghanistan. Les représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats n'ont pas trouvé de consensus s'agissant du SMIG en République tchèque pour la prochaine année. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères Vladimir Müller, la République tchèque s'attend à une approche commune des pays du groupe de Visegrad au prochain sommet de l'Union européenne en vue d'aboutir à un accord sur son budget pour l'exercice 2007-2013. Le sommet aura lieu jeudi en Grande-Bretagne. Météo ce mercredi, qui est le jour de fête de Eric, le ciel sera à moitié dégagé, les températures varieront entre 14 et 18 degrés. Des précipitations locales pourront apparaître. C'était le journal préparé par Alena Gebertova.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être restés en notre compagnie pour ce tour d'horizon de l'actualité en République tchèque. Les protestations autrichiennes relatives à la mise en marche effective du premier bloc de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud sont le thème principal de ce magazine. La qualité de vie sera le thème de notre deuxième sujet puisque pour la deuxième année consécutive, Hradec Králové en Bohême de l'Est a été désignée comme la ville tchèque où la qualité de vie est la plus élevée. Culture à l'occasion de l'ouverture d'un centre culturel à Košice, dans l'est de la Slovaquie, nous évoquerons les relations tchéco-slovaques. En sport, un nouveau président a été élu à la tête de la Fédération tchèque de football. Enfin, nous évoquerons les conséquences de la prolifération trop importante des sangliers dans les bois et forêts du pays. Toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Le premier bloc de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud qui fournit de l'électricité au réseau national tchèque depuis 5 ans en régime provisoire d'essai devrait passer au régime normal. Le processus de contrôle vient de commencer mais la centrale suscite toujours les protestations de certaines personnalités autrichiennes. Alain Slivinski.
La centrale nucléaire de Temelin a commencé le 18 octobre à passer au régime normal de production de l'électricité. Après une période d'essai de 5 ans pendant laquelle la centrale approvisionnait quand même le réseau électrique tchèque, elle passe à son régime de croisière, du moins en ce qui concerne le premier bloc, dont le réacteur et ses équipements. D'après le porte-parole de la centrale de Temelin, Milan Nebesaj, la juridiction tchèque est pleinement respectée, concrètement la loi atomique et la loi sur la construction. La centrale bénéficie d'un permis de fonctionnement à l'essai, valable d'ailleurs jusqu'à la fin de 2005. Milan Nebesaj ajoute. La mise en service d'un tel colosse énergétique demande un temps approprié. D'après la loi atomique, nous avons terminé les tests du bloc générateur l'année dernière. Et d'après la loi sur la construction, nous avons commencé les contrôles avant la mise en service de tous les bâtiments de la centrale cette année. Il s'agit de plus d'une centaine de bâtiments. Avec la mise en service effective du premier bloc de la centrale nucléaire de Temelin, les protestations de l'Autriche ont refait surface. Radko Pavlovets, chargé du contrôle des centrales nucléaires non loin des frontières de la Haute-Autriche, affirme que la Tchéquie, dans le cas de Temelin, ne respecte pas les accords de Melk conclus à la fin de l'année 2001. En ce temps-là, la Tchéquie, face aux protestations autrichiennes, s'était engagée à contrôler la sécurité des éléments clés de la centrale, à fournir toutes les informations concernant le fonctionnement du réacteur. L'Autriche, en contrepartie, s'était engagée à débloquer le processus d'admission de la République tchèque dans l'Union européenne et à empêcher le blocus des autoroutes et passages frontières entre les deux pays. Dana Drapkova, présidente de l'Office national de la sécurité nucléaire, affirme que la Tchéquie respecte les accords et les lois. De même, la direction de la centrale de Temelin est persuadée que le litige réside seulement dans une différente interprétation des données fournies par l'une ou l'autre des parties intéressées. Officiellement, le gouvernement autrichien ne relève aucun danger dans le fonctionnement de la centrale nucléaire de Temelin.
Okolo hradce, v malé zahrádce, rostou tam tři růže. Jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře. Jedna je červená.
Hradec Králové serait la ville où habiter en République tchèque pour les âmes en quête d'un ordinaire paisible et d'une qualité de vie supérieure. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le quotidien Mladá Fronta Dnes. Quelques détails avec Anna Kubišta.
V Praze je blasé, dit une expression populaire tchèque, soit qu'il fait bon vivre à Prague. Il semblerait pourtant que la capitale tchèque ne soit pas au premier rang des villes où les gens vivent le mieux. Si elle s'en sort plus honorablement que l'an dernier, puisqu'elle passe du 7e au 3e rang, c'est la ville de Bohême de l'Est, Hradec Králové, qui cette année encore se retrouve en première position dans le classement effectué par Mladá Fronta Dnes sur la qualité de vie de ses habitants. Pour les 100 000 habitants de cette ville dont les origines remontent au Moyen-Âge où elle faisait partie de ces cités offertes en dot aux reines de Bohême, elle serait une ville agréable et tranquille. D'après un sociologue interrogé par le quotidien tchèque, la manière forcément subjective dont les habitants perçoivent et ressentent leur lieu de vie est conditionnée par des aspects divers tels que la difficulté ou la facilité qu'ils éprouvent à trouver un logement, la qualité des services et des transports, les possibilités de trouver un emploi, mais aussi la qualité des établissements scolaires. Et d'ajouter que ces habitants peuvent aussi être satisfaits de leurs conditions de vie par défaut, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas mieux dans leurs proches environs. La composition de la ville s'avère intéressante également. Alors qu'à Hradec Králové vivent de nombreux habitants qui y ont déménagé, Pardubice, qui talonne la ville à la deuxième position, se compose essentiellement d'habitants de longue date. Il n'en reste pas moins que cette enquête du quotidien tchèque, publiée la semaine dernière et portant sur un total de 77 régions et leurs villes principales, jugeait celle-ci d'après 12 critères censés être déterminants, parmi lesquels on retrouve le taux des retraites, le nombre de personnes pour un médecin, le taux de chômage, les prix de l'immobilier ou les prix du gaz, les décès suite à des maladies graves ou encore le salaire moyen. Justement, d'après cette étude, ce n'est pas la richesse, en tout cas pas les hauts salaires, qui sont un facteur déterminant pour la qualité de la vie dans ces villes. La preuve en est avec le cas de Prague, où certes ceux-ci occupent la première place dans le classement des plus hauts et des plus bas salaires, mais ne font pas pour autant de la capitale un meilleur endroit pour vivre. Sans grande surprise, ce sont les régions de Bohême du Nord, anciennes régions minières notamment, souvent dévastées au niveau écologique et au niveau économique du fait des restructurations du secteur industriel, qui arrivent en bas de l'échelle. Chômage, bas salaire, sans compter un environnement pollué, s'opposent à ce qui, apparemment, attire et retient les gens à Hradec Králové, principale métropole de la région de Bohême orientale, jumelée par ailleurs avec la ville mosellane de Metz. Un cadre plaisant, dans une atmosphère universitaire, une ville où se déroulent divers événements culturels et qui offre un cadre architectural qui sort de l'ordinaire, entre les vestiges du passé et l'empreinte de l'architecte moderne Joseph Gotchard qu'il a laissé sur de nombreux édifices au début du XXe siècle.
La visite du chef de la diplomatie tchèque, Cyril Svoboda, en Slovaquie, effectuée à quelques jours des célébrations du 87e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, avait une dimension symbolique, mais aussi politique et culturelle. Jarka Gisubilova pour plus d'informations.
L'avenir du traité constitutionnel, les préparatifs du budget de l'Union européenne et la coopération régionale ont été au menu des conversations du chef de la diplomatie tchèque Cyril Svoboda avec son homologue slovaque Eduard Kukan et le chef du gouvernement Mikuláš Dzurinda. Les relations entre les deux États de l'ancienne fédération commune qui a cessé d'exister en 1993 ont été qualifiées d'excellentes et hors standard. Un petit problème néanmoins est posé par le passage de la frontière commune. Les habitants des régions frontalières ne sont pas d'accord avec le traité en état de préparation qui interdirait de franchir la frontière sans limitation quelconque à n'importe quel endroit. Ils craignent des complications que cette mesure entraînerait dans leur vie quotidienne et aussi un impact négatif sur le tourisme. Le traité en question prévoit la création de 22 points de passage et d'autres 72 voies convenues. Passer librement la frontière ne serait possible que sur autorisation spéciale. Lors de sa visite à Bratislava, Cyril Svoboda a aussi développé l'idée du premier ministre tchèque Jiří Paroubek d'utiliser à nouveau le nom de l'ancienne fédération tchécoslovaque pour la présentation de deux pays successeurs à l'étranger, où ce nom est beaucoup plus connu que la Tchéquie et la Slovaquie et où il a toujours un bon renom. Une proposition à l'égard de laquelle la diplomatie slovaque ne s'est pas montrée favorable. Un point fort de la visite, l'ouverture du centre tchèque à Košice, métropole de la Slovaquie orientale. Il a son siège dans la rue Razusova, dans le même bâtiment où se trouvait le consulat général de République tchèque, fermé après l'entrée des deux pays dans l'Union européenne. La Tchéquie a ses centres dans 17 pays du monde et celui de Košice est le 21e déjà, car la Slovaquie est l'un des pays où il y a plus d'un centre. Cyril Svoboda a souhaité que le centre attire non seulement les habitants de Košice, mais qu'il serve aussi à près des 6000 Tchèques qui résident dans la région et qu'il aide à ce que Tchèques et Slovaques soient toujours aussi proches d'eux par leur culture et leur langue. Le correspondant de la radio tchèque en Slovaquie, Robert Mikuláš, nous a communiqué ce que le centre peut offrir aux visiteurs.
České centrum v Košicích zájemcům nabídne i českou knihovnu, která byla přivezena z Bratislavy ve slovenské metropole.
Le centre tchèque de Košice offrira aux intéressés une bibliothèque tchèque déplacée ici de Bratislava, où une autre bibliothèque sera installée conformément à un accord entre les ministères de la culture à la bibliothèque universitaire. Et en revanche, une bibliothèque slovaque fera partie de la bibliothèque nationale de Prague. La culture tchèque à Košice a une longue tradition. On y organise des journées tchèques et nos compatriotes y font paraître un mensuel Česká beseda, unique en son genre en Slovaquie.
Česká beseda, který je de facto i jediným na celém Slovensku.
Le football tchèque a enfin un nouveau chef. Il aura cependant fallu plus de 6 mois et pas moins de 3 assemblées générales pour que les délégués siégeant à la fédération élisent le remplaçant de Jan Obst. C'est donc Pavel Mokry qui vendredi est sorti vainqueur des urnes pour s'être montré plus habile en coulisses que son adversaire, l'ancien joueur international Ivan Hašek. Mais alors que le football tchèque n'est toujours pas sorti de la plus importante affaire de match truqué de son histoire, hormis quelques dirigeants, la presse, comme les amoureux de ballon rond, se désole de la désignation de cet ancien arbitre amateur qui incarne l'immobilisme et la continuité dans la poursuite des sombres pratiques qui minent l'un des deux sports les plus populaires en République tchèque. Certes, si elle élimine la Norvège dans quelques semaines lors de son match de barrage, la République tchèque participera à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990. Certes aussi, Pavel Nedvěd, déjà élu en 2003, et le gardien de Chelsea, Petr Čech, figurent sur la liste des 50 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2005. Et la grande majorité des internationaux évoluent dans quelques-uns des meilleurs clubs européens. Mais à l'intérieur des frontières, le tableau est moins reluisant et le football tchèque se porte nettement moins bien qu'il n'en donne l'air. Depuis le printemps 2003, le scandale de corruption portant sur l'achat de matchs de première et deuxième division par des dirigeants directement auprès des arbitres traîne en longueur. Et malgré les écoutes téléphoniques dont dispose la police, aucune sanction exemplaire n'a été prononcée par la fédération, ni contre les responsables, ni contre les clubs incriminés. Du coup, le public tchèque se désintéresse du championnat, lassé des pratiques mafieuses en cours au niveau professionnel comme amateur. Ivan Hašek, bien connu en France pour avoir joué au Racing Club de Strasbourg puis entraîné le club alsacien, se proposait donc de faire le ménage et de mettre en place des mesures radicales pour redonner un peu de crédit au football. Mais les dirigeants de la fédération ont finalement préféré Pavel Mokry, un ancien commissaire de police spécialisé dans la criminalité économique, qui dans l'ombre exerce son influence dans le petit monde du football depuis déjà 20 ans. Ce dernier sera secondé par un autre personnage avide de pouvoir, Vlastimil Koštial, l'ancien président du Sparta de Prague et actuel manager de la sélection. Les deux hommes, qui s'étaient présentés indépendamment lors des deux premières élections, se sont entendus pour placer leurs intérêts pourtant divergents en commun. Ils ont désormais 4 ans pour travailler également dans l'intérêt du football. Les gardes-chasse, les chasseurs et les agriculteurs sonnent l'alarme. Les sangliers envahissent la Tchéquie. Une explication avec Alena Gebertova.
Les sangliers dévastent récoltes et jardins, liquident des chevrates. Des collisions avec des sangliers sont à l'origine d'accidents de la route. Auparavant, habitants plutôt discrets des forêts et des champs, les bêtes noires semblent sortir de l'ombre pour poser de graves problèmes et pour faire parler d'eux plus souvent que jamais. L'explication est simple, il y a trop de sangliers sur le territoire tchèque. Selon certaines estimations, ils seraient aujourd'hui 3 fois plus nombreux qu'il y a 3 ou 4 ans. Les experts affirment qu'un tel surpeuplement des sangliers a été constaté la dernière fois dans les pays tchèques sous Marie-Thérèse, qui régnait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est elle-même qui avait alors décidé de confiner les sangliers dans des réserves, décision qui a fait que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les sangliers ont représenté une espèce rare dans les forêts tchèques. À présent, et depuis la seconde moitié du XXe siècle déjà, les sangliers vivent librement dans la nature. C'est la catastrophe, se plaignent les agriculteurs, face aux dégâts causés par les sangliers au niveau des cultures, du colza et du maïs notamment. Il s'agit aussi de dégâts au niveau des arbres et des arbustes. Moins sauvages que jadis, les sangliers osent s'approcher des habitations, entrer dans les jardins. Le problème touche également Prague. Les pénétrations répétées des bêtes noires dans le fameux jardin botanique de Troja en sont un exemple des plus spectaculaires. Faire face au surpeuplement des sangliers et aux dégâts que cela génère est difficile. D'autant que le gibier bénéficie de conditions idéales en pleine nature, où il n'est plus confronté à ses ennemis naturels, loup, ours ou lynx. Les actions de chasse intenses se présentent comme l'unique arme de leur élimination, mais restent peu efficaces, compte tenu de l'ampleur du phénomène. Craindre les sangliers, les forestiers assurent que ceux-ci ne représentent aucun risque pour l'homme. Tout en ajoutant quelques recommandations sur ce comment se comporter en cas de tête-à-tête imprévu avec la bête.
Et c'est ainsi que prennent fin ces faits-événements. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie. Tout de suite retrouvez Alain Slivinski.
73 de Radio Prague. Alain Slivinski.
Nous voilà donc à la fin du mois d'octobre avec la dernière rubrique DX avant le passage à l'heure d'hiver. Bien que nous soyons depuis un certain temps en automne, le temps reste au beau avec des températures élevées et une bonne propagation. Espérons que cela dure encore un peu, et dans cette édition de la rubrique destinée en premier lieu aux radios écouteurs, nous parlerons de la numérisation en Tchéquie. Tout d'abord, je reviendrai à un récent courrier de nos amis René et Louisette Pijard, du Perche en France. Ils nous écrivaient que nous avions parlé de nos amis communs, Roland Paget et Philippe Marsan, en tant que membres du club du Perche. Il y a eu confusion, ou plutôt, nous avons mal tourné une phrase dans un 73 de Radio Prague qui parlait de la nuit de la radio 2005. Je reconnais que cela a pu prêter à une autre interprétation que celle qui était voulue. Et naturellement, Roland Paget, président du club Amitié Radio, n'est pas membre du club du Perche, ni Philippe Marsan, un collectionneur de radios anciennes de la région de Bordeaux. Puisque nous arrivons au dernier week-end d'octobre, n'oubliez pas que, comme tous les ans, nous passons à l'heure d'hiver. Pour Radio Prague, ou la diffusion internationale en général, cela ne change rien dans les heures d'écoute réelles. Par contre, comme vous pourrez le constater en recevant notre grille automne-hiver, les heures de diffusion en temps universel coordonné changent d'une heure. Un autre petit changement concerne les fréquences, mais ce n'est vraiment qu'un seul changement. Autrement, la grille ne présente pas d'autres modifications, à part peut-être la photo de l'équipe qui est une mosaïque cette fois-ci. Pourquoi avoir choisi cette présentation ? Tout simplement parce qu'il est très difficile d'avoir tous les membres de la rédaction pour une photo commune le même jour. Il y a toujours un ou plusieurs membres qui manquent, voyage de service, congé ou autre. Alors nous avons fait plusieurs photos qu'il a été facile de rassembler en une mosaïque. Nous espérons que la photo de l'équipe vous plaira. Question concours, il y aura un grand concours de Radio Prague qui fête en 2006 son 70e anniversaire. Les modalités du concours seront publiées dans la grille printemps-été 2006. Autrement encore, pas de nouveautés dans les programmes de notre station. Une nouvelle série de QSL, ce sera aussi pour le printemps prochain, et je ne saurais vous dire à l'heure actuelle quel sera le thème choisi. Peut-être aura-t-il quelque chose à voir avec l'anniversaire de Radio Prague. Passons maintenant au thème annoncé au début, la numérisation en Tchéquie. Comparée à d'autres pays d'Europe, la Tchéquie pourrait sembler récemment encore en retard dans le domaine de la numérisation de la télévision et de la radio. Depuis la fin de la semaine dernière, ce n'est plus le cas. La télévision tchèque, en effet, société d'intérêt public, financée par le biais des redevances versées par les citoyens, a lancé ses programmes en numérique. Il s'agit du Multiplex A, qui fonctionnait déjà depuis 5 ans au stade expérimental. Il est maintenant en service normal et est administré par la société tchèque de radiocommunication. Qu'offre-t-il aux citoyens tchèques ? Les trois programmes de la télévision tchèque, dont les premières et deuxièmes chaînes, ČT1 et ČT2, le canal Info, ČT24. Et surprise, la chaîne de télévision privée qui totalise le plus haut taux d'audience Nova. À l'avenir, la télévision tchèque pense diffuser aussi un canal sportif. Résultat pour le téléspectateur. Rien de mieux que la période expérimentale, pour l'instant. Disons plutôt négatif, car le multiplex expérimental diffusait aussi les programmes de la seconde chaîne privée Prima et la chaîne musicale Ochko. Donc, ce n'est pas encore la fin des multiples antennes sur les toits des Tchèques, car la numérisation, la TNT, comme on l'appelle en France, n'a rien apporté de nouveau. Si, quand même. Et cela touche les radio-écouteurs, car les nouveaux programmes de la radio tchèque sont diffusés dans le cadre du multiplex A. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient diffusés que sur le web, où ils avaient déjà remporté un certain succès. Négatif pour l'instant encore, le multiplex A ne peut être capté que dans la capitale et ses environs. Dans un proche avenir, pourtant, il devrait toucher plus de 60% des citoyens tchèques. À côté du multiplex A existe aussi le multiplex B qui fonctionne jusqu'à la fin de l'année 2005 en mode expérimental. Il semble que le contrat pourrait être prolongé. Le multiplex B offre plus de programmes que le A et surtout, ce qui est le plus important pour le téléspectateur, il offre les programmes des quatre principales chaînes hertziennes. Pour ce téléspectateur, le plus important est de savoir ce qui va se passer. Quand pourra-t-il avoir accès au maximum de chaînes de télévision et de stations radio en numérique, mais d'un seul émetteur ? Car aujourd'hui, il y a par exemple deux multiplex à Prague, mais chacun émet sur un autre canal et offre d'autres programmes. Cela veut dire que si vous êtes un peu éloigné de l'émetteur, vous êtes obligé d'avoir deux antennes râteaux ou autres orientées dans deux différentes directions. En plus de cela, la législation traîne en longueur. Le Conseil de l'audiovisuel assure que les licences seront délivrées le plus tôt possible, mais les spécialistes tirent déjà le signal d'alarme. Les régions frontalières avec l'Allemagne peuvent être privées de signal analogique très rapidement, même à partir de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne développe très rapidement le DAB-T en utilisant les fréquences des émetteurs de télévision analogique. Ainsi donc, la majorité de la population de la Bohême du Nord capte la télévision de l'émetteur de Oustina de la Bohême, le 12e canal. Celui-ci sera utilisé avec une puissance bien plus élevée par l'Allemagne pour diffuser les programmes radio. Résultat, mauvaise réception pour les téléspectateurs tchèques. En plus, il ne s'agit pas que d'un seul canal et les chaînes de télévision en sont bien conscientes, comme Nova, la télévision privée, qui n'est pas sur le satellite, mais passe rapidement au numérique. Les responsables, selon le spécialiste, c'est le législateur qui, au lieu d'appliquer la licence analogique au numérique, a choisi de suivre une procédure compliquée de nouvelles licences. Ajoutons à tout ce désordre l'offre du Télécom Tchèque pour l'année prochaine. 2 dizaines de chaînes de télévision et radio par la ligne de téléphone classique. Une concurrence sérieuse du câble, car Telecom possède sa licence en numérique et offre déjà la phonie par Internet. Pas en retard, dont la Tchéquie en matière de TNT, mais ce n'est pas encore l'offre dont dispose le citoyen français, par exemple. Et c'est tout. Rendez-vous dans 15 jours avec Roland Paget et sa rubrique.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia,